Chers frères et sœurs, ce dimanche, quand on entend Jésus qui nous dit « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu » et qu'on voit justement la tête de certains d'entre nous, on se dit que, sincèrement, ça sent le bluff. En réalité, cette histoire de cheveux est assez importante parce qu'elle nous donne, elle nous dit très clairement que le but de Jésus n'est pas de nous décrire les événements par le menu détail. Ça n'est pas le sens de son propos. Ça n'est pas non plus uniquement de nous parler de ce qui surviendrait ou de ce qui surviendra à la fin du monde. Non, Jésus veut parler de toutes les épreuves, les péripéties qui jalonnent l'humanité, l'histoire de l'humanité, de génération en génération, de siècle en siècle, avec bien des bouleversements, bien des choses difficiles à traverser. Et devant tous ces bouleversements, je ne parle pas simplement de l'épisode que nous connaissons, qui éprouve particulièrement certains d'entre vous. Je disais tout à l'heure à un paroissien, vous êtes un peu un réfugié climatique. On vient chercher la chaleur et puis on vient brancher son portable. Mais au-delà de ça, c'est vrai, cet épisode, mais il y a beaucoup plus globalement l'état de la planète. On peut nommer plein de défis aujourd'hui qui nous paraissent terrifiants. Je pense aussi à l'islamisme, à bien des défis qui se posent à nous comme des choses dramatiques et urgentes. Et devant tout cela, on peut être un peu submergé et on peut se dire, oula, où est-ce qu'on va? C'est fichu, c'est... Voilà. L'autre jour, j'entendais un député que certains d'entre vous connaissent, il s'appelle François Ruffin, et ce député disait « Moi, je veux parler d'espérance ». Ah, je lui dis « Tiens, ça c'est... Dans la bouche d'un politique, c'est rare, c'est inattendu, c'est un peu iconoclaste, de quoi veut-il nous parler ?» Alors, il dit « Bah voilà, j'ai fait un constat, c'est que le progrès économique, depuis ces 30 dernières années, en fait, n'a pas tenu sa promesse. On s'attendait à ce que ça nous comble totalement, la technologie et tout ça, et puis en fait, non. Les gens ne sont pas satisfaits, les gens veulent autre chose. » Alors la journaliste, maligne, lui dit « Mais vous êtes chrétien, vous, non ?» Alors là, elle lui dit même « Catholique ». Et là, il se débine, il dit « Non, non, moi je ne suis pas croyant, je suis agnostique. » Ah, je me suis dit, mon cher François, quel dommage. Pour quelqu'un qui veut jouer au prophète, qui veut être un peu audacieux, qui veut proposer une espérance, paf, il croit à rien. Je dis, ah, elle va reposer sur quoi cette espérance? C'est intéressant ça, sur quoi ça va reposer? Et puis, mon cher François, est-ce que tu as réalisé que être agnostique, agnosis, ça veut dire sans connaissance, c'est la position de celui qui dit je suis neutre, Dieu on ne peut pas savoir. C'est une position intellectuelle ça, c'est que dans le cerveau. Parce que dans ta vie concrète, François, tu vis comme si Dieu existe, ou comme si Dieu n'existait pas. T'es obligé de choisir sur qui tu comptes en premier, lui ou ton compte bancaire, ou tes succès professionnels, etc. etc. T'es obligé de choisir dans la vie concrète. Donc agnostique, qui est entre nous soit dit, la position aujourd'hui de 75% des Français, qui vous diront « on ne peut pas savoir ». Ça passe pour de l'humilité, ça cache un désespoir de pouvoir connaître, mais surtout ça n'est qu'intellectuel, c'est dans la tête. Dans la vie concrète, on n'est pas agnostique. Alors après, il disait, mais voilà, l'important pour le bonheur n'est plus dans les biens, il est dans les liens. Là, j'avais envie de dire, ben là, bienvenue au club, tape là. Mais j'avais envie d'ajouter, mais rien de nouveau sous le soleil, mon cher François, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le bonheur a toujours été d'abord dans les liens d'amour et pas d'abord dans les biens matériels, depuis que l'homme est homme. Et donc, rien de nouveau sous le soleil. Mais il insistait là-dessus et il disait, du coup, c'est l'attention à son prochain, à la personne handicapée, la personne âgée, le plus petit. Oh, là, la journaliste esclave, elle lui dit, mais c'est catholique, ça. Et alors, en fait, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand j'entends le discours d'un homme comme ça, j'ai pas envie de juger le fond de son cœur, hein, mais je me dis, un jour, il va se casser le nez sur Jésus. À force de s'approcher des petits, des voilà, tac, 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 il va découvrir en eux une lumière que nous n'avons pas. Et s'il a le cœur ouvert, il va découvrir la source de cette lumière. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Parce que les liens, frères et sœurs, évidemment que c'est capital, que c'est important, mais qui est la source de tous les liens du monde? Qui est le professionnel des liens? Qui n'est que lien en lui-même? Notre Père du ciel, le Seigneur. Vous savez que nous, les chrétiens, nous croyons à la Trinité. On n'ose pas trop en parler parce qu'on se dit « c'est compliqué, les gens vont rien comprendre ». Et pourtant, c'est capital. C'est le mystère central de notre foi. Et qu'est-ce que c'est que la Trinité ? Des purs liens. Vous savez que la personne du Père, la personne du Fils, la personne de l'Esprit-Saint, c'est étonnant quand on en parle en théologie, parce que ces personnes ne sont que relations. L'être du Père est tout entier relation au Fils. Le Fils est tout entier relation au Père. Et l'Esprit-Saint, c'est la relation entre les deux. On ne peut pas faire plus relation. C'est que de la relation, le mystère de Dieu. C'est magnifique, non ? Je me disais, mais si lui pouvait le découvrir, il serait juste émerveillé. Il se dirait, ah d'accord, c'est lui la source. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous allez recevoir le Seigneur, on appelle ça la communion. C'est magnifique, non ? Pour entrer en relation, en communion avec Dieu, et puis en communion les uns avec les autres. Il y a donc une source. La même semaine, j'entendais le témoignage d'un jeune homme, on peut dire jeune homme parce qu'il a mon âge, 38 ans, et donc, il s'appelle Johannes de Habsbourg. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. C'est l'héritier de la famille impériale d'Autriche. Grande famille. Et ce jeune homme, Johannes, il était banquier. Il gagnait des sommes considérables. Et en fait, il disait, mais en fait, j'étais banquier et en fait, en moi, il y avait un vide intérieur immense. J'ai fait cette expérience d'un vide considérable. Il s'est dit, c'est pas ça ma vie. Et lors d'une messe, il donnait le sang du Christ. Et en donnant le sang du Christ, tout d'un coup, alors, il ne trouve pas les mots d'ailleurs, il ne sait pas trop comment le dire, il dit, je ne sais pas s'il faut dire que j'ai connu, que j'ai senti, j'en sais rien, mais en tout cas, une certitude, Dieu était là. Il pressent cette présence immense de Dieu, cet amour intense de Dieu pour lui, à cet instant. Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, il y a toute sa vie qui a défilé dans sa tête et dans son cœur, et il a revu toute sa vie, il s'est dit, en fait, il a toujours été là. Mais je ne le voyais pas. Vous savez que son grand-père, Charles d'Autriche, est bien heureux. Sa grand-mère, l'impératrice Zita, il y a eu aussi un procès de béatification. Il y a des grands-parents bien heureux, c'est quand même magnifique. Hein. Et donc, et lui, à la béatification, qu'est-ce qu'il faisait ? Il fumait sa clope. Non, il était loin de, vous voyez, il n'avait pas découvert le Seigneur. Et là, tout d'un coup, il prend conscience. Oh, il est là. Et du coup, il est rentré dans une communauté qui s'appelle Eucharistein. Alors quand on dit ça, les gens disent, ah ben voilà, lui, il a fui le monde, il y en a qui se coltinent d'être dans le monde, comme nos députés, puis lui, ça y est, il va se réfugier dans une communauté. Ben c'est pas ça du tout. Parce que la communauté en question, ils accueillent tous les paumés de la terre, les patrons qui font des burn-out, le SDF du coin, tout le monde peut venir, c'est porte ouverte. Il y a un monde fou qui passe dans cette communauté. Ils sont pas en dehors du monde, au contraire, ils servent puissamment le monde. C'est un lieu où il y a des liens intenses. Mais il y a une source. Ils sont appuyés sur quelqu'un. Il y a un socle. Ils sont connectés au Seigneur. Et assez puissamment, parce que dans cette communauté, il y a l'adoration perpétuelle. Ça veut dire que la petite hostie, il passe des heures et des heures chaque jour en prière devant le Seigneur. Parce que c'est la source de tous les liens. Et qu'ensuite, ça donne la force de tous les liens possibles. Alors qu'humainement, souvent, ça nous dépasse. Rien qu'à l'intérieur de nos familles, si on n'est pas appuyé sur le Seigneur, très vite, on s'épuise. Alors que là, il trouve la force d'aider des tas de gens que sinon, il n'aurait sans doute pas ni la douceur, ni la patience, etc., d'aider. Et ça, voyez, ça, c'est l'espérance. C'est-à-dire que l'homme ne repose pas sur lui-même. Si on ne s'appuie que sur nous-mêmes, un jour ou l'autre, comme disait le cardinal Lustiger, on va s'apercevoir que nous reposons sur le néant, qu'en dessous de nous, c'est le vide, il n'y a rien. Non, l'homme qui repose sur Dieu, frères et sœurs, il est engagé dans le monde, mais pleinement engagé, mais en sachant qu'il n'est pas le sauveur du monde. Et ça, franchement, c'est reposant. Vous savez, aujourd'hui, on dit beaucoup qu'on va sauver la planète. C'est marrant comme slogan, hein, mais c'est complètement farfelu. Personne ne va sauver la planète, je vous rassure, ni vous ni moi. Par contre, tous, on est invités à s'engager, c'est vrai, pour la planète, mais en sachant que c'est pas nous qui la sauvons, c'est même pas nous qui l'avons créée, c'est pas nous qui la maintenons dans l'existence. Elle est dans la main d'un autre. Et ça, c'est libérateur. Et quand j'entendais Johannes, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que depuis, il est ordonné prêtre. Alors maintenant, il est prêtre. Eh bien, Johannes, on aurait pu dire, toi, d'une famille historique et tout, t'aurais pu t'engager en politique pour changer le monde. Eh bien, il a suivi le Seigneur. Et c'est aussi une manière puissante de changer le monde. Parce qu'à travers la paix qui rayonne de ce jeune homme, quand je l'entendais, je me suis dit, toi, t'as un vrai cadeau pour aujourd'hui. Il y a tant de gens qui n'ont plus la paix. Il y a tant de gens qui cherchent la lumière. Toi, tu l'as trouvée, et par ta vie simple et vraie, très simple, hein, travaille le bois, cultive la terre dans cette communauté, très simple. Par ta vie simple et vraie, t'es comme l'aiguille de la boussole qui indique le nord. Tu redis où est la source. Et ça, c'est précieux. C'est pour ça, frères et sœurs, que si quelqu'un vient nous voir, nous tous ici, et nous dit, s'il te plaît, je suis dans la nuit, où est la lumière ? Quel est le sens de la vie ? Sur quoi est-ce que je peux appuyer ma vie ? Nous devons répondre, en vérité, une seule chose est sûre, une seule, pas 40, une seule. Tout peut s'effondrer, tout le monde peut s'effondrer, dans le monde et dans l'Église, tout est fragile, infiniment fragile. Il n'y a qu'une chose qui tiendra toujours, sur laquelle tu peux appuyer toute ta vie, c'est le Christ. Lui seul. Et le roc qui nous donne la vie dès maintenant et qui nous la donnera dans l'éternité. Seigneur, ce matin, nous voulons nous remettre entre tes mains. Fais-nous la grâce de nous engager pleinement, mais en sachant que c'est toi la source. C'est toi qui tiens tout dans ta main, qui a créé et qui recrée en permanence, qui vient sauver et pardonner. Garde-nous toujours dans la paix au milieu des bouleversements du monde. Amen.